c'est l'heure du journal présenté par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Hervé, bonsoir à toutes et à tous. Journée de tension à Jérusalem en ce dernier vendredi du Ramadan. Plus de 200 000 fidèles musulmans se sont retrouvés pour prier sur l'esplanade des mosquées. Rassemblement sans incident, mais sous haute surveillance. Une attaque au couteau s'était déroulée un peu plus tôt dans la matinée. Correspondance à suivre dans un instant de Marine Vlaovic. En Algérie, la mobilisation populaire continue. Chaque vendredi, le pouvoir en place tente de jouer la montre jusqu'à la présidentielle, prévue le 4 juillet. Élection toujours refusée par les manifestants, vous l'entendrez. Dans ce journal également, les promesses de la science dans les traitements contre le cancer, alors que s'ouvre à Chicago le plus grand congrès d'oncologie. Dossier de Tara Schlegel et puis l'enquête de cette édition signée ce soir Anne Lorchouin sur les inquiétantes évolutions des coopératives agricoles. Aux États-Unis d'abord, les marchés sont fébriles depuis l'annonce de Donald Trump qui a entrepris visiblement de régler la question migratoire avec le Mexique par l'application de nouveaux droits de douane. L'annonce faite hier par le président américain prévoit l'imposition de droits de douane punitifs de 5% contre les biens mexicains importés tant que les immigrés clandestins continueront d'affluer aux États-Unis en passant par la frontière du Sud. Les taxes augmenteront chaque mois de 5 points de pourcentage supplémentaires pour atteindre 25% le 1er octobre si la situation n'évolue pas. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a joué, lui, pour répondre à son homologue du Nord, la voie de la diplomatie. À Mexico, Émilie Barraza.
Ne surtout pas entrer dans une logique de confrontation avec les États-Unis. Ce matin, le président mexicain a été obligé, encore une fois, de faire un exercice périlleux d'équilibriste, ménager le président Trump, éviter de le braquer encore plus contre le Mexique, tout en évitant de paraître trop timoré aux yeux de ses compatriotes.
Ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent, car sinon nous n'aurions plus de dents. On doit chercher le dialogue, faire de la politique, de la diplomatie, avec de la responsabilité.
Le président n'exclut pas d'avoir recours à l'Organisation mondiale du commerce, mais l'heure est grave pour le Mexique, car une mise à exécution de ces taxes serait désastreuse pour l'économie mexicaine. Et l'inquiétude monte à Mexico, car le gouvernement a récemment mis en place un nouveau plan pour tenter de contrôler la migration des Centra-Américains vers les États-Unis, les empêcher d'aller plus vers le nord. Mais si les autorités des États-Unis sont dépassées par ces flux migratoires sans précédent, eh bien les autorités mexicaines le sont aussi. L'équation sera donc très difficile à résoudre pour le président mexicain.
Correspondance depuis Mexico d'Émilie Barraza pour France Culture. Plus de 200 000 fidèles musulmans se sont retrouvés pour prier aujourd'hui dans la vieille ville de Jérusalem à l'occasion de la dernière prière de ce dernier vendredi du mois de Ramadan. Sur le troisième lieu saint de l'islam, la tension était palpable aujourd'hui, Jérusalem-Est ayant été placée sous étroite surveillance israélienne après une attaque palestinienne qui a fait 2 blessés ce matin. Bonsoir Marine Vlaovic.
Bonsoir.
En direct avec nous depuis les territoires palestiniens, un vendredi, une nouvelle fois sous tension.
Oui, hein, et finalement, eh bien, cette grande prière du dernier vendredi du mois de Ramadan s'est déroulée sans incident. La foule devrait continuer d'affluer dans les heures qui viennent pour la nuit du destin, considérée comme bénie par les musulmans. Les prières qui se déroulent sous haute sécurité dans la partie est de la ville trois fois sainte, annexée et occupée par Israël, car le début de la journée a été entaché de violence. Ce matin, un jeune Palestinien a attaqué à l'arme blanche 2 Israéliens dans la vieille ville de Jérusalem, avant d'être tué par la police israélienne. Au même moment, à quelques kilomètres de là, à Bethléem, un adolescent palestinien a été abattu par l'armée alors qu'il tentait de franchir le mur de séparation pour prier à Jérusalem, selon les médias locaux. Dans la bande de Gaza, des milliers de personnes ont quant à elles manifesté le long de la barrière de séparation avec Israël pour la journée de Jérusalem décrétée par l'Iran en soutien à la cause palestinienne, faisant ainsi une dizaine de blessés parmi les manifestants. Ces différentes célébrations se déroulent avant un week-end à haut risque. Dimanche, des milliers de nationalistes israéliens doivent défiler drapeau au vent dans le quartier musulmans de la ville de Jérusalem pour célébrer ce qu'il nomme la journée de réunification de la ville trois fois sainte.
Merci Marine Vlaovic. En Algérie, de nouvelles manifestations toujours aussi impressionnantes dans les rues des grandes villes. Malgré la pression, la répression et les arrestations de plus en plus nombreuses, les manifestants continuent à demander un changement de régime et une période de transition. Fin de non-recevoir pour l'instant du chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah. Il a réaffirmé sa priorité qui est à l'organisation de l'élection présidentielle, comme le prévoit le calendrier. Mais en vue du 4 juillet, seules 2 candidatures ont été déposées. déposée pour un scrutin toujours rejeté par les manifestants. Nassira Dutour est la présidente du mouvement du collectif des femmes disparues.
Pour moi, le 4 juillet, c'est pas une échéance. Moi, je ne peux pas.
Il n'y aura pas d'élection.
C'est pas possible d'aller aux élections. Le jour du 4 juillet, il y aura tout le monde dans la rue. Il n'y aura pas d'élection. Tout le monde sera dans la rue, non pour aller voter, mais pour dire non aux élections. Nous ne voulons pas des élections dans l'état actuel des choses. Nous voulons des élections libres et démocratiques. Nous voulons aller aux urnes, mais pouvoir voter sur le candidat de notre choix, pas du candidat du choix des militaires. On veut un système civil. Nous voulons pouvoir choisir nos candidats nous-mêmes. Le principal slogan, c'est « Yitnahaouga ». C'est, si je traduis mot à mot, « ils s'enlèvent tous ». Donc tous doivent partir. Donc on ne veut plus de ce système. On veut qu'ils dégagent tous et qu'ils nous laissent reconstruire notre pays. Nous, spécialement les femmes.
Des propos recueillis par Nadine Epstein. Le pape est en visite en Roumanie tout ce week-end. Il est notamment prévu qu'il aille une nouvelle fois à la rencontre des orthodoxes ultra-majoritaires dans le pays. Au programme également une rencontre avec des Roms et avec la communauté catholique. En Espagne, le procès Deliveroo aujourd'hui, la société de livraison de repas à domicile, est poursuivi par la sécurité sociale espagnole pour avoir fait travailler plus de 500 livreurs comme de faux indépendants. Les autorités espagnoles réclament à la société britannique Deliveroo 1,3 million d'euros de cotisations impayées. Correspondance de Mathieu de Taillac.
Le procès a commencé à 11h ce matin. Un tribunal du droit du travail de Madrid doit dire si la décision de l'inspection du travail est correcte. Décision importante puisque les inspecteurs ont considéré que 531 livreurs de Deliveroo ne sont pas des auto-entrepreneurs, mais des salariés, et que l'entreprise de livraison doit donc s'acquitter de leurs cotisations sociales au lieu de laisser payer chaque mois leurs charges. La sécurité sociale réclame 1 200 000 euros de cotisations non versées à l'entreprise qu'elle considère être leur employeur. Deliveroo se défend en disant que les riders, comme elle appelle les livreurs, sont indépendants, qu'ils travaillent au rythme qu'ils souhaitent, qu'ils peuvent accepter ou refuser les commandes. Les livreurs et la sécurité sociale rétorquent qu'il existe une relation hiérarchique, qu'ils ne peuvent travailler sans l'application et qu'ils se voient assigner des franges horaires qui dépendent notamment de leur qualité de travail, voire de leur docilité. Ce procès se tient dans un tribunal régional à Madrid. La décision ne fera pas encore jurisprudence, mais elle ouvre le bal d'une bataille judiciaire qui ne fait que commencer. Après Madrid, les livreurs de Barcelone et de Valence attendent eux aussi d'exposer leurs arguments devant la justice.
Mathieu de Taillac, depuis Madrid. En France, la crise au sein du parti Les Républicains suite après le résultat catastrophique de la liste emmenée par François-Xavier Bellamy aux Européennes la semaine dernière. Les demandes de clarification sur la ligne ou d'explication sur l'échec ou de démission au sommet du parti, ces demandes se multiplient. Dernière initiative en date, celle de députés LR qui envisagent, d'après nos informations, de créer un groupe dissident à l'Assemblée nationale à partir de la semaine prochaine. Il serait une vingtaine et parmi eux figure Jean-Carl Grelier, député de la Sarthe. Il est interrogé par Rosalie Lafarge.
Laurent Wauquiez a fait le choix délibéré d'ancrer les Républicains aux confins du Rassemblement national, espérant qu'un jour les électeurs qui avaient fini par voter pour le Rassemblement national nous reviendraient. Or, c'est non seulement une erreur de calcul à mes yeux monumentale, mais c'est un échec patent. Alors, on est un certain nombre de députés au sein du groupe à avoir attiré l'attention du président des Républicains sur cette question. Et à chaque fois eu une fin de non-recevoir de la part de la gouvernance des Républicains en règle générale. Alors, l'idée, c'est qu'effectivement, nous puissions créer un autre groupe pour créer un électrochoc en disant à Laurent Wauquiez et à tous ceux qui sont à la tête de ce parti aujourd'hui, on va dans le mur et on y va en klaxonnant. C'est peut-être pas la peine d'en rajouter. À un moment donné, posons-nous, arrêtons cette espèce d'entre-soi qui s'organise là ces derniers jours à coups de pétitions, de tribunes. Remettons à plat ce qui a fait l'ADN de l'UMP à l'époque, c'est-à-dire la conjonction entre l'ancien RPR et l'ancienne UDF. Alors notre démarche, elle est celle-là, pour qu'à un moment donné, peut-être, la direction prenne conscience qu'il y a lieu de changer de ligne et qu'on arrête de s'enfoncer à la fois dans les sondages et dans l'opinion, comme on l'a fait depuis 2 ans et plus encore à l'occasion des élections européennes.
Et ce soir, Ludovic Jolivet, le maire de Quimper, annonce qu'il quitte les Républicains et qu'il rejoint le parti plus centriste, Agir. Le pourvoi en cassation du gouvernement français dans l'affaire Vincent Lambert, nouveau recours contre la décision de la la Cour d'appel de Paris ordonnant la reprise des traitements de ce patient tétraplégique. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le ministère de la Santé à l'agence France Presse. En Vendée, les suites de l'agression des militants du centre LGBT de La Roche-sur-Yon. Aujourd'hui, 3 étudiants de l'Institut catholique de Vendée, l'ISS, ont été exclus suite à cette affaire. Les faits remontent à la mi-mai. Un stand du centre LGBT avait été attaqué par des militants, dont certains portaient le logo de la Manif pour tous. Des insultes homophobes avaient été proférées. La direction estime que sa réputation a été ternie. Marc Bertrand.
La direction de l'école s'appuie sur son règlement intérieur. Tout étudiant qui se rend coupable de troubles à l'ordre public, susceptible de nuire à l'image de l'ISS, pourra être renvoyé, dit le texte, même si les faits ont eu lieu en dehors de l'école. L'ISS exclut donc 3 étudiants sur les 13 qui s'en sont pris au stand LGBT. 9 écopent d'une exclusion avec sursis et de travaux d'intérêt général. Un dernier s'en tire avec un blâme. L'école était pressée de réagir après le tollé provoqué par l'agression sur les réseaux sociaux. Mais elle va moins loin que le parquet de La Roche-sur-Yon. Dans l'enquête pénale, 12 des 13 étudiants sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. Certains pour violence, pour vol et dégradation d'un drapeau LGBT. Et tous pour avoir scandé « homopholie, ça suffit », ce que le parquet a qualifié d'injure publique à caractère homophobe.
Marc Bertrand, l'auteur présumé de l'attentat à la bombe à Lyon la semaine dernière, a été déféré au parquet de Paris. Aujourd'hui, à l'issue de 4 jours de garde à vue, ce jeune Algérien doit être présenté à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. 14 personnes avaient été blessées par l'explosion de son colis piégé. De nouvelles économies en vue pour Radio France, qui envisage de nouvelles suppressions de postes pour dégager quelques 60 millions d'euros d'économies d'ici 2022, soit le triple de ce qui avait été jusque-là annoncé. C'est ce qu'indiquent des sources syndicales et un député communiste qui s'en fait le relais. La direction de Radio France ne fait pas de commentaire avant une réunion du conseil d'administration qui est prévue lundi. Les formidables espoirs suscités par les progrès de la médecine dans les traitements anti-cancers. Il en sera question à partir d'aujourd'hui à Chicago, aux États-Unis, où s'ouvre le plus grand congrès mondial consacré à la lutte contre le cancer. Il sera question d'un médicament innovant dont vous nous avez déjà parlé sur cette antenne. Tara Schlegel, bonsoir.
Bonsoir.
Cette immunothérapie baptisée CAR T-cells permet de combattre les leucémies aiguës chez l'enfant et les lymphomes chez l'adulte. Elles sont autorisées en Europe depuis l'été dernier. La France est un des pays pionniers. Ces thérapies marchent, mais grâce à des protocoles, Tara, qui coûtent encore évidemment très très cher.
C'est effectivement d'abord une thérapie qui marche, un médicament vivant fabriqué à partir de cellules immunitaires du malade qui sont envoyées aux États-Unis, génétiquement reprogrammées, congelées, puis réinjectées en France. Chez l'enfant malade résistant à la chimiothérapie, la réponse tourne autour de 80%, explique le professeur Catherine Thieblemont, qui soigne les adultes à l'hôpital Saint-Louis.
La première patiente traitée avec une leucémie aiguë est encore vivante à ce jour, et donc on a 7 ans de recul. Et pour les patients présentant un lymphome, on n'a pas encore assez de recul pour savoir combien de temps on peut vivre en rémission complète après ce type de traitement.
Mais vous ne pouvez pas comparer chimio et non chimio.
Vous savez, les statistiques, en fin de compte, ça ne veut rien dire. Parce que vous voyez, par exemple, le premier protocole de chimio très forte que j'ai eu, a priori, les statistiques n'étaient pas mauvaises de réaction. Bon, eh ben moi, ça n'a pas marché. Là, comme vient de dire le professeur Thieblemont, ce nouveau protocole où il n'y a qu'un tiers environ de personnes atteintes de lymphome qui réagissent, eh bien moi là j'ai réagi et je suis en rémission complète. Donc voyez.
Nadine Chopin n'avait plus que 5-6 mois devant elle et la disparition totale de sa tumeur pose la question presque indécente mais indispensable du coût de ces médicaments. Gilead, l'un des deux seuls laboratoires qui avec Novartis fabrique les CAR T-cells, négocie en ce moment avec le comité économique des produits de santé. Michel Joly, le patron de Gilead France, revient sur les 3 critères de fixation du prix qu'il établit, lui, à 350 000 euros.
La Haute Autorité de Santé a reconnu le caractère innovant de Yescarta. Le deuxième aussi, c'est tenir compte du modèle très spécifique de ces médicaments qui sont en une injection unique. Donc on n'est pas sur un traitement chronique qui va étaler des coûts sur 5 ans, par exemple. On est sur un traitement donc effectivement qui correspond à une seule facturation, si j'ose dire. Et puis également le bénéfice qu'il va représenter en espérant qu'effectivement en France on puisse confirmer les 50% de patients vivant au-delà de 2 ans.
Donc tous ces éléments font qu'on arrive à une valeur finalement qui, d'après vous, doit être de 350 000 euros.
Quand on est sur une seule injection, évidemment, on voit le prix de l'intervention puisqu'il n'y a plus aucune intervention après l'injection. Donc forcément, le prix est très visible. Donc je comprends qu'il puisse questionner. Mais pour autant, il faut bien se rendre compte qu'on parle de quelques centaines de patients en France. Donc quand vous regardez sur la masse investie en France contre le cancer, c'est moins de 0,5% de l'ensemble du coût du cancer.
Effectivement, pour l'instant, les CAR-T-cells dans les lymphomes devraient concerner environ 400 malades adultes chaque année, des malades qui ont résisté à au moins 2 lignes de chimiothérapie. Mais déjà, une dizaine d'essais cliniques sont en cours pour cibler de nouveaux cancers, peut-être demain des cancers solides comme celui du poumon ou du foie, d'où l'importance des négociations sur ces premiers prix. C'est donc une vraie révolution thérapeutique dont Nadine Chopin profite pleinement.
Par rapport à l'autogreffe, je me suis remise beaucoup plus vite. Il y a 4 mois, au bout de 4 mois, j'étais déjà en vacances, en train de me baigner dans la mer, voilà, et déjà en forme, même si j'avais quand même des goûts de fatigue. Et quand une aventure comme ça vous arrive, parce que c'est une aventure, comme moi, je suis en mission complète, mais ça peut revenir, je ne sais pas quand. Donc, je me lève le matin et je profite de toutes les belles choses de la vie et j'aime tout le monde et j'ai envie d'aider tout le monde. Et parce qu'il n'y a que ça qui est important, les relations humaines, la vie, le soleil, la mer et tout. Voilà. Donc, on devrait tous y penser avant d'être malade.
Et maintenant, Nadine espère même avoir de moins en moins d'examens à passer.
Le scan est obligatoire ?
Non.
Parce que...
On va arrêter le scanner. Ouais. Hein.
Ah, j'ai bien fait de demander. Ouais. Vous voyez, encore une bonne nouvelle.
Des rires légers comme l'espoir des malades en rémission. Merci Tara Schlegel pour ce dossier sur les CAR-T-cells. 18h16 sur France Culture, la suite du journal avec l'enquête de cette édition qui nous offre ce soir une plongée dans le monde des coopératives agricoles. Bonsoir Anne-Laure Chouin.
Bonsoir Benoît.
C'est vous qui signez cette enquête sur les inquiétantes dérives des coopératives agricoles.
Oui, c'est coopératif qui regroupe aujourd'hui 3 agriculteurs sur 4 et 1 marque alimentaire sur 3, des marques aussi connues que Yoplait, la baguette Campaillette, les magasins Jardiland ou encore le jambon Brocéliande qui réalisent des centaines de millions d'euros de bénéfices. Ces coopératives sont des regroupements d'agriculteurs qui mettent leurs moyens en commun pour valoriser leur production, le tout sans payer d'impôts sur les sociétés et sur les principes de l'économie sociale et solidaire où l'humain prime sur le capital.
Et alors ces dernières années, Anne-Laure, on a assisté à la naissance de véritables mastodontes.
Oui, ces coopératives se sont rachetées entre elles et à mesure que leur nombre diminuait, leur chiffre d'affaires explosait. Certaines ont développé des filiales, parfois à l'étranger et parfois opaques. C'est le cas de Tereos, coopérative sucrière, qui détient par exemple la marque Béguincé. Elle est en difficulté actuellement. Des agriculteurs, qui sont aussi administrateurs de Tereos, ont voulu demander des comptes et leur avocat Thibaut Guillemin nous raconte ce qui leur est arrivé.
Mes clients ont à un moment donné lancé l'alerte. Ça a conduit à leur exclusion, qui était une mesure extrêmement violente prise par le conseil de surveillance. Un agriculteur se faire exclure d'une coopérative à laquelle il livre l'intégralité de sa production, c'est simplement l'arrêt de mort de son exploitation.
Que demandaient précisément ces agriculteurs, Anne-Laure ?
Eh bien, ils voulaient simplement savoir ce qui se passait dans les filiales de Tereos, notamment au Brésil. Un autre agriculteur, conseiller départemental d'Indre-et-Loire, Vincent Louot, lui aussi s'est posé la même question.
Quand on m'a demandé de m'intéresser au cas Tereos, je ne croyais pas ouvrir une structure financière aussi complexe, avec une centaine de filiales, avec une structuration qui passe par la Belgique et le Brésil. Et c'est vrai qu'on ne voit pas dans les comptes apparaître depuis les 3 dernières années de remontée de dividendes vers la coopérative.
Cette opacité qui touche ces énormes coopératives, elle s'est développée avec la bienveillance du législateur, car c'est bien la loi qui, il y a 30 ans, a autorisé les filiales à l'étranger sans pour autant mettre en place les moyens de contrôler leurs activités. C'est ce qu'explique la fiscaliste et spécialiste de la question, Chantal Chomel.
Le législateur n'a pas accompagné cette évolution. L'accompagnement juridique du groupe coopératif, il est arrivé avec la loi de 2014, qui a introduit une obligation de faire un compte-rendu de l'activité des filiales. Donc ça, c'est récent et c'est même pas encore rentré en vigueur, en fait.
Donc en clair, aujourd'hui, rien n'oblige une coopérative agricole à communiquer sur les comptes de ses filiales, sachant que certaines d'entre elles sont implantées au Luxembourg, pays réputé pour la douceur de sa fiscalité.
Et du coup, certains agriculteurs ont l'impression d'être floués.
C'est ça, l'impression de voir des filiales créer beaucoup de valeur, alors que la maison mère coopérative, elle, les rémunère très peu. Écoutez ce qu'en dit Véronique Lefloc, éleveuse du syndicat Coordination Rurale.
Regardez Yoplait. Avec 19 000 yaourts vendus à la minute. Ça fait 4 000 euros de chiffre d'affaires à la minute. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de retour aux agriculteurs ?
Et cette question, ils sont de plus en plus nombreux à se la poser. Pierre Louot est sénateur. Lui, il a voulu organiser un débat sur ce sujet au Sénat. Et voilà ce qui s'est passé.
J'ai bien senti dans les 8 jours qui ont précédé ce débat les pressions sur mes collègues sénateurs qui leur demandaient de ne pas intervenir dans le débat ou de défendre leur coopérative. Donc je crois que tout ceci n'est pas très sain.
Mais ce sujet reste peu médiatisé, preuve que la loi du silence est toujours en vigueur dans le monde agricole.
Merci Anne-Laure Chouin. Votre enquête sur les coopératives agricoles et leurs dérives est à retrouver en intégralité sur notre site internet franceculture.fr. Des températures en hausse demain, un samedi estival d'après Météo France. Les températures minimales seront comprises au lever du jour entre 10 et 16 degrés du nord au sud. On attend de 25 à 31 degrés dans l'après-midi.